Je m'appelle Joëlle Boutin, votre candidate de la CAQ dans Jean Talon. Je m'engage à être une députée à l'écoute de vos préoccupations et à vous représenter chaque jour au sein du gouvernement. J'ai le privilège de faire partie d'une équipe proactive qui respecte ses engagements et qui fait avancer les idées et les projets qui vous tiennent à cœur. Le 2 décembre, je sollicite votre appui pour qu'ensemble, on se mobilise pour bâtir un Québec moderne, innovant et plus vert.
Le 2 décembre, faites partie du changement. Votez Joëlle Boutin. La CAQ. Faire plus. Faire mieux. Martin Labrie, agent officiel.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Plonge tes oreilles dans la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Question de savoir à Chiz 94.3. Mon nom est Jérôme Lizotte, je suis attaché à l'exécutif à l'Allier. Pourquoi je parle de l'Allier? Question de savoir, c'est l'émission hebdomadaire de l'Allier, l'association étudiante des étudiants et étudiantes au cycle supérieur. Je suis accompagné cette semaine de beaucoup de gens. On est une couple autour de la table. C'est un gros party aujourd'hui. On fait une émission de 4 heures. Non, c'est pas vrai. Vous ne le saviez pas. Hein?
Je vais changer mes rendez-vous.
Donc, je suis accompagné. On va commencer à ma gauche avec Marie-Ève Duchesne. Salut, Marie-Ève.
Allô, Jérôme.
Marie-Ève, qui est notre nouvelle attachée aux communications à l'Allier depuis deux semaines. Donc, félicitations pour ton entrée en poste. On est bien contents de t'avoir dans l'équipe. Je suis aussi avec Serge Bonin, ou qu'on appelle également Sergio Bonin.
Oui, c'est selon. J'ai plusieurs surnoms qui courent au fil du temps.
Exactement. Serge Bonin, qui est directeur de la chaire publique, c'est le sujet de l'émission aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu
fais? Pas tout à fait. C'est Néo là, dont on va parler. Là, ouais.
Arrête de spoiler le monde. Là.
Mais là, on est dedans ou on n'est pas dedans? Là?
Donc, et je suis également accompagné de Tom Rodrigue, qui travaille également à la chaire publique et sur le projet Néo. Salut, Tom.
Moi aussi, j'ai plusieurs surnoms. On m'appelle aussi Serge numéro 2.
Ouais. Ou Serge Junior aussi.
El Tom.
Et finalement, on a également la série sur Sunday, Julie Garneau avec nous, qui a été participante à l'émission au projet Néo de la première épisode. Salut Julie.
Bonjour.
Comment ça va?
Ah, ça va bien, merci. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. C'est le fun.
Ben oui, ça va être vraiment le fun. On va parler justement de Néo et là, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Et là, regarde Serge et Tom, qu'est-ce que c'est Néo? De où ça sort? C'est quoi cette bébelle-là?
De qu'est-ce que c'est ça? Néo, qu'est-ce que ça veut dire? Néo, c'est un préfixe qui veut dire nouveauté, mais qui veut aussi dire néophyte. Bon, au départ, on voulait faire presque un parallèle avec Néo dans la matrice, mais bon, on n'est pas allé jusque-là, on s'entend. Néo, ça vient du concours Cogito, d'abord, que vous connaissez peut-être, qui, à l'époque, il y a 14 ans, je crois, c'était le Lab Oratoire Public. Donc, c'était des affiches qui étaient présentées à Place Laurier. Les étudiants venaient présenter leurs travaux pour un peu entrer dans la société civile puis échanger un peu, que la science puisse sortir un peu des murs de l'université. Donc, par la suite, c'est basculé au concours Cogito, qui est une émission de vulgarisation, qui est en ligne, d'ailleurs, que vous pouvez aller voir. Il y a eu 7 saisons de Cogito avec des portraits d'étudiants. Donc là, c'est vraiment des entrevues axées sur un étudiant qui présente le projet de chacun. Et il y a eu plusieurs formules au fil des années. Il y a eu de l'interaction. Il y a eu une année où il y avait des artistes qui s'inspiraient des projets de recherche pour créer des œuvres. Il y a eu des années vraiment d'échanges autour du bar du Café Foilier, etc. Mais, on présentait à cette époque-là au Canal Savoir. Et cette époque change. Nous sommes maintenant sur le web. Et donc, on a essayé de repenser l'émission pour la mettre sur le web. On a eu le Forum des Assos avec plusieurs personnes qui sont venues interagir, brainstormer, échanger pour voir qu'est-ce qui suivait sur le web, qu'est-ce qui les intéressait, quel genre de format, quelle durée, etc., etc. Et puis, on est arrivé avec une formule qu'on a expérimentée, puis qu'on a peaufinée, puis au fil du temps, on est arrivé à une... une conclusion qui nous semble déjà pas si mal. Là. Donc, on a lancé la première émission il y a 2 semaines, je crois, déjà. Mm-hmm. Oui, on est déjà rendu là. Et puis, elle est en ligne, elle s'appelle Néo, et elle met en vedette Julie. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un format plus web, plus près du YouTuber, où on s'adresse directement à la caméra, où je fais un peu l'animation, l'introduction, la conclusion, et je pose des questions à l'invité qui est mis en vedette à chaque émission. Et puis, tout ça dans un format un peu ludique. On a des animations, des gifs, des images qui viennent agrémenter un peu le tout. Et ça nous permet de connaître ce qui se fait aux études supérieures de façon un peu plus originale et accessible. Et on essaie de viser un public plus large, si on veut. Donc, on a fait un lancement au Café Foualier, mardi, il y a 2 semaines. Et puis voilà, c'est en train de rayonner tranquillement. Là, on va essayer de pousser pour la faire connaître davantage. Puis il y a d'autres émissions qui sont déjà en production. On avait déjà 3 premiers candidats qui étaient sélectionnés pour les 3 premières émissions pour pouvoir approcher avec cette émission-là les différentes facultés et aller chercher du financement. Alors, on est en démarche en ce moment. On rencontre les doyens, puis les gens sont très enthousiastes et embarquent avec plaisir. Alors, tout ce que j'ai à dire, c'est inviter les gens à aller voir qu'est-ce que c'est. Elle est en ligne, ça s'appelle Néo, sur la chaîne YouTube de la chaire publique Néo.
Oui, on va en écouter un extrait audio tout à l'heure, en fait, là, justement pour donner l'eau à la bouche. Je pense que Marie avait une question.
Néo
à la bouche. Ouais.
Sans divulgâcher, ça serait quoi les prochains sujets? De quoi on va
on
parler?
On est déjà rendu à l'heure, mais on n'a même pas parlé du premier.
Parlons du premier, puis ensuite du deuxième. Troisième.
Le premier parlait d'intelligence artificielle. Peut-être que Julie pourra nous en dire un peu plus si tu peux nous présenter ton projet. En fait, la question, je vais juste nommer la question. La question, c'est votre patron sera-t-il un robot? Donc, on parle beaucoup du changement de la main-d'œuvre, d'intelligence artificielle, d'automatisation. Donc, on a pris cette question-là intrigante. Et Julie, peut-être que tu peux nous parler un peu de ton projet. Qu'est-ce que c'est?
Oui, ben en fait, c'est une bonne question. C'est une question qui se pose, hein, parce que la transformation numérique, là, ça se passe. Puis dans les milieux de travail, là, ça se passe présentement. Il y a plein de petits changements, hein, qu'on met à tous les jours, qu'on utilise un peu plus notre téléphone cellulaire, qu'on utilise des applications, on rentre nos heures maintenant de travail par une application. Tu sais, c'est fini, là, l'idée de la punch, tu sais.
Alors,
Il y en a encore. Mais, tu sais, de plus en plus, il y a toute cette numérisation là qui s'installe dans les milieux de travail. Puis moi, ce qui m'intéressait, c'est une question de relations de travail. Comment ça bousculait les relations de travail? Puis on a des exemples ou des auteurs qui nous ont dit que c'était la fin de l'emploi, que les gens allaient perdre leur travail et finalement, on allait tous être remplacés par des robots. Et il y a les autres un peu plus négatifs qui disent, un instant, pas encore, l'être humain va demeurer, puis on a besoin de garder notre travail et besoin de garder la force de travail pour ne serait-ce que de gagner notre gagne-pain. Alors, entre les deux, je voulais savoir comment ça se passait. Et là, je me suis dit, faut aller voir dans les milieux de travail. Donc, j'ai choisi le milieu industriel. Et puis, je vais regarder comment ça se passe, puis comment est-ce que les patrons puis les syndicats, finalement, essayent de résoudre cette question-là. Donc, c'est une question assez large qui m'a amenée dans 2 entreprises, une au Québec et une au Danemark, pour voir comment est-ce que ça se faisait. Hein. Et puis...
entreprise que tu n'as pas le droit de nommer.
Non, c'est ça.
Dans le domaine de l'aéronautique.
C'est dans le domaine de l'aéronautique. Donc, c'est des entreprises qui fabriquent des pièces qui vont être intégrées dans des avions. Une, c'est des composantes d'ailes et l'autre, c'est des trains d'atterrissage.
OK. Et est-ce que la résistance, tu la vois davantage du côté des employés ou du côté du patronat?
C'est intéressant parce que quand on met les deux pieds sur le terrain, là, on se rend compte que la numérisation, ça affecte le travailleur. C'est sûr, le machiniste, il ne fait plus sa pièce de la même façon. C'est sûr que les machines CMC, ils sont de plus en plus autonomes, automatisés. On va rentrer des machines qui vont dicter la cadence, qui vont donner le rythme de la production. Donc, le travailleur qui est derrière devient un opérateur. Donc, il va plutôt assister la machine à savoir est-ce qu'elle fait bien sa job.
S'il n'y a pas des bribes, s'il n'y a pas des
anomalies. S'il y a un pépin, on va dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour débloquer la machine? Mais aussi, on voit que dans la fonction gestion change beaucoup. Parce que là, le contrôle, qui était souvent le lieu ou l'affaire du superviseur, c'est l'iPad qui contrôle. Parce que la machine, elle donne des données. Elle envoie ça à un méga logiciel qui gère l'usine. Donc, tu reçois tes ordres comme travailleur du iPad qui t'a déterminé dans ta journée, ça va être quoi la séquence de tes tâches. Donc, la fonction du superviseur commence un peu à changer. On commence
à voir. Il y a moins de questions de personnalité. C'est une analyse vraiment très froide, oui, de différentes données qui font
ben,
le meilleur plan de match, c'est celui-là.
C'est ça.
Tu dois
Donc, on
ça.
Fait un processus de gestion. Puis là, c'est un processus de gestion industrielle. Puis, donc là, on est capable de tout prévoir d'avance qu'est-ce qui doit être fait dans une journée, à quelle heure, comment, où. Et la fonction du superviseur, finalement, ce qu'on a commencé à me parler, c'est que le superviseur, il fait juste se promener. Il regarde dans son iPad s'il y a des zones rouges, hein, parce qu'il y a des zones problèmes, s'il y a des zones jaunes ou des zones vertes. Donc, il n'y a plus la même job. Et puis, c'est peut-être eux autres qu'on va voir finalement disparaître.
T'sais. Et est-ce que le superviseur, c'est lui également qui programme les iPads et qui fait la supervision?
Non.
Donc, c'est vraiment
souvent,
juste relation humaine et c'est pas mal ça.
Oui. Puis ça change aussi, des anecdotes qu'on m'a racontées. Ça, c'est dans une autre entreprise. Un des superviseurs qui me disait, moi, je deviens de plus en plus mal à l'aise parce que ce que j'ai sur mon iPad pour savoir quelle machine va bien ou non, c'est lié à un numéro d'employé. Puis j'ai des grands tableaux en haut dans l'usine. Mm-hmm. Puis donc, je peux voir tout le temps en temps réel par le numéro de l'employé lequel est sa coche, tu sais, sur la cadence, lequel est un peu en retard, lequel est un peu... Donc,
ça devient un peu discriminant pour les autres aussi.
Oui, autour.
Les employés se surveillent les uns les autres ou...
C'est une surveillance. Peuvent, mais en même temps, c'est aussi... moi, en tout cas, le témoignage que j'ai eu du superviseur, il me disait... tu sais, avant, là, Julie, là, il y a quelqu'un qui va pas. Il vit un problème personnel. Tu sais, ça va pas trop bien. Il vient me voir, il m'en fait part. Puis là, je dis, OK, écoute, aujourd'hui, fais la job. Si ça va pas, viens me le dire, tu sais, puis on va prendre une pause, je te remplace. Mais il dit, là, c'est su au vu de tout le monde, là, tu sais, parce que là, à un moment donné, quand il va pas bien, il prend un peu de retard sur sa machine, ben là, tout de suite, le témoin jaune en haut, puis là, tout le monde le sait qu'il va pas bien,
ça,
là, tu sais. Fait qu'il disait, moi, ça me met mal à l'aise, tu sais. Fait que c'est toutes sortes de petites anecdotes comme ça qui est intéressant d'aller étudier puis de remettre ça en perspective dans qu'est-ce que ça veut dire, le contrôle au travail.
Mm-hmm. Puis ça devient plus froid aussi comme atmosphère de travail, veux pas.
Ouais.
Oui, parce que l'objectif est vraiment la productivité. Donc, il y a danger de perdre le côté humain aussi à travers ça, là, j'imagine.
Oui, puis il va toujours avoir des forces de résistance aussi. Hein? Donc, c'est ça qui est intéressant d'aller voir comment ça se passe.
Puis j'ai une question aussi. Pourquoi le Danemark? Qu'est-ce qui a poussé le Danemark?
Ben, en fait, c'est que le Danemark, c'est un pays hyper intéressant sur plusieurs aspects. Mais au niveau de l'aspect économique et politique, c'est quand même un pays qui est très, très ouvert sur l'économie de marché. Hein. C'est un pays qui a beaucoup d'exportations, donc c'est très ouvert et s'inscrit dans des grands ensembles économiques, des échanges. Ils ont une législation du travail qui... On dit qu'il y a à peu près 2 pages, donc ils n'ont pas beaucoup de droits du travail. Par contre, tout est négocié. Donc, tout se passe par la négociation collective, des grandes ententes qui couvrent tous les travailleurs. Et ils ont un taux de productivité assez élevé. Ils ont des résultats sociaux au niveau de l'égalité qui surpassent beaucoup des pays de l'OCDE et les nôtres aussi. Donc, c'est ce mix-là qui est intéressant. T'sais. Ils sont hyper ouverts sur l'économie, mais en même temps, il y a une très grande protection sociale. Et comment ça fonctionne dans les relations de travail, moi, je trouvais ça intéressant d'aller voir pour voir, nous, le Québec, qu'on se dit aussi un peu en mélange hein, entre les politiques sociales et économiques. Donc, c'est intéressant de voir, dans ce cas-là, la résolution des problèmes dans 2 pays comme ça. Mm-hmm.
Et de quoi on peut s'inspirer un peu du Danemark?
En fait, c'est difficile hein, de prendre juste un aspect puis de l'intégrer dans.
Mais parce qu'on est dans. Parler de leur école, par exemple. C'est sûr que c'est hors de ton domaine.
Mais parce qu'on a vécu quand même un an là-bas, puis on a mis
Y a-t-il une chose qui t'a marqué particulièrement?
Oui, ben en fait, ce que je voyais, le lien entre l'école de mes enfants et puis les milieux de travail, c'est leur façon qu'ils ont très tôt, très jeune âge, de résoudre des problèmes. Mm-hmm. Donc, il y a une grande négociation qui se fait dans la classe. Tu sais, dans la petite année, en 2e, 3e année, les élèves, ils négocient avec la professeure le plan de la journée. Tu sais, pour nous autres, là, c'est assez confrontant. Là, quand j'ai vu ça, quand même, là. Mais en même temps, c'est après que j'ai pris l'ampleur de ce que ça donnait aux jeunes d'apprendre d'être dans un régime de négociation, de délibération, de discussion. Ce qui fait que quand j'allais dans le milieu de travail, bien, c'est tout le temps en train de se parler, c'est tout le temps en train de faire une réunion, de se mettre ensemble, patron, syndicat, puis c'est OK, on a un problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est cette capacité-là à traiter des problèmes, de les prendre tout de suite, puis dire, bien, on va se mettre en mode solution, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le bien de tout le monde? Fait que je trouvais que très tôt, ils apprennent ça, puis je trouve que c'est une belle idée, peut-être, à instaurer, à donner à nos jeunes cette capacité-là de délibérer.
On a du travail à faire.
Mais si on en avait plus, la vie serait plate.
Hein? Oui, tout à fait.
Exactement.
Mais là, avant de savoir votre patron sera-t-il un robot, vous allez devoir aller écouter la capsule pour répondre un peu à cette question-là.
Exactement. Je vais parler de la capsule. On va justement... C'est sûr que là, c'est une vidéo, donc on va faire jouer un extrait audio. On va vous donner un petit teaser de quoi ça ressemble, Néo. Donc, on va
voir ce que ça donne en version podcast.
Exactement.
Oups.
Ben, vous pouvez le faire, là. On a les deux intervenants.
Est-ce qu'on a du son? Un, deux, un, deux.
Moi, je fais la toune.
Est-ce qu'on est en ordre?
Non, mais le YouTube fonctionne pas.
Bon, le YouTube fonctionne pas, donc on peut le faire en direct, comme Tom disait.
On va faire la chanson.
Donc, si vous voulez aller le voir, c'est sur la chaîne YouTube de Cher Public Allié et Néo.
C'était un bel essai. Donc, on a encore des petites particularités à apprendre pour le live. Là.
C'est exactement. Vous pouvez aller le voir sur la chaîne Public Allié et Néo sur YouTube. Le premier épisode est sorti depuis 2 semaines et c'est vraiment intéressant. Donc, justement, je vais revenir un peu au rôle de Néo.
C'est pour le URL, là, dans le fond, là, de la chaîne YouTube, c'est Cher Public Néo, tout d'un coup.
Ah, parfait.
Si les gens veulent y aller, c'est notre même aussi pour Facebook. Là.
Parfait. Puis, gênez-vous pas de commenter si vous voulez qu'on discute de sujets particuliers, si vous voulez vous avez des questions, si vous avez... gênez-vous pas de commenter. Et justement, j'en profite pour interpeller M. Rodrigue qui est ici devant moi. T'es un peu... t'es derrière les coulisses plus parce que Serge fait l'animation de Néo et justement pose des questions, fait directement l'émission. Toi, c'est quoi ton rôle plus particulièrement à la chaire publique et Néo?
Moi, plus récemment, en fait, j'ai plus pris le relais de Serge, par exemple, avec Cogito, avec les conférences de la chaire publique pour vraiment permettre à Serge de se mettre à temps plein dans Néo, parce que ça fait quand même un bon moment qu'on travaille là-dessus, on développe le concept. Ça a été beaucoup de recherches aussi. On a écouté toutes sortes de channels YouTube puis de différents concepts pour développer tout ça. Donc, moi, c'est ça. Je suis plus un... Pour le moment, éventuellement aussi, je vais plus être impliqué dans le montage de Néo avec un peu de motion design
modeste,
et tout ça.
T'es modeste.
mais moi, qu'est-ce que je trouvais intéressant, je me demandais... Toi, t'aimes ça, Serge, les questions, justement, par rapport au concept puis tout, là, je sais pas si tu prévoyais en parler plus tard, là, Jay, là, du concept un peu, de genre, parce que dans le fond, le concept, c'est que chaque épisode commence avec une question.
Évidemment.
Une question un peu controversée, fait que tout avec
question
comme une volonté.
Pas nécessairement controversée, mais une question qui pique la curiosité. Mm-hmm. C'est vraiment l'objectif, donc on essaie de voir, c'est pas nécessairement la question de recherche. Julie se demande pas si le patron va devenir un robot, elle se demande comment les relations de travail s'imbriquent pour essayer d'amener l'intelligence artificielle en entreprise. Mais la question est intrigante, t'sais, c'est ça qu'on veut essayer de trouver au départ. Comme les deux autres questions, Marie-Ève, tout à l'heure, tu me demandais qu'est-ce qui s'en vient. Ben, la prochaine question, c'est un étudiant en génie géologique qui pose la question, est-ce que nos ingénieurs civils au Québec sont incompétents? Et puis là, ben, lui, il se questionne sur tous les édifices en béton. Pourquoi ça craque de partout après un certain âge? Est-ce que ça craque plus vite ici au Québec? Est-ce que nos routes qu'on doit refaire constamment? Qu'est-ce qui fait que...
Si on répond oui, on va se faire poursuivre par l'ordre des ingénieurs, si je comprends bien.
On a des bonnes chances que ce soit non, mais on va comprendre pourquoi c'est
ouais,
non.
C'est
donc c'est ça. Mais lui travaille vraiment sur la pierre. Donc la réaction de la pierre qu'on a utilisée il y a 60-70 ans pour construire les édifices, qui, à force de recevoir de l'eau, l'eau se désimperméabilise. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin...
On se comprend.
Elle provoque une réaction à la pierre et ça fait craquer le béton. Donc, lui, il essaie de voir comment mettre une membrane qui permet à l'eau de s'évaporer, mais pas de pénétrer. Donc, c'est pas simple, mais grosso modo, c'est là-dessus qu'il travaille. Donc, c'est pour ça qu'il disait, est-ce que c'est la faute des ingénieurs civils? On dit tout le temps, on refait nos routes tout le temps, on refait tout le temps. Bon, ben c'est ça. Donc, on part de cette question-là qui est intrigante, mais qui n'est pas le sujet directement. Puis lui, il répond par sa vision, puis en disant, ben moi, dans mon domaine, il y a des explications qui font que, qui enlèvent un peu le poids sur les épaules de l'ingénieur civil.
Exact, parce qu'il y a des limites physiques, il y a des limites climatiques aussi reliées à cette question-là.
Exactement.
Puis tantôt, Tom faisait mention de... parce que là, on différencie depuis tantôt chaire publique et néo, donc on parle de néo depuis tantôt. Et c'est quoi les autres projets de la chaire publique? C'est quoi les autres... exactement, les autres projets de la chaire publique?
Ben là, récemment, on a fait la conférence sur les changements climatiques avec... C'est quoi le nom du... pour en savoir
pour
plus.
Pour en savoir plus,
c'est une nouvelle cycle de conférences qui est organisée en collaboration avec l'Université Laval.
Et Radio-Canada.
Et Radio-Canada.
Tranquillement.
Tranquillement, ouais.
On a un concurrent.
Oups.
On va couper au montage. Ça, <c'est>
Puis, ouais, ben aussi, on montre les conférences qu'on a filmées il y a quelques années. Ces temps-ci, on travaille sur. On va sortir dans les prochains jours. C'est-à-dire, on travaille. C'est complété, là, mais on va sortir dans les prochains jours une conférence qu'on a faite.
Tom travaille fort.
Le syndicalisme étudiant. On est aussi sur. Sur les droits des animaux, sur on a toutes sortes de sujets, sur « Où va votre argent? » aussi, une conférence qu'on avait faite avec Alain Deneau, entre autres. Une conférence aussi sur l'éducation.
L'école publique, l'avenir de l'école publique.
Oui, c'est ça.
Puis la dernière conférence, pour en savoir plus, pour les gens qui n'étaient pas là, c'était sur les changements climatiques.
Oui, exactement.
Sur les enjeux et...
défis, je crois.
Défis.
Ouais. Est-ce que c'est sacrifice ou opportunité?
C'est exactement ça.
C'est le verbatim. Donc, est-ce que les changements climatiques nous force à faire des sacrifices ou au contraire, on pourrait s'en servir pour innover puis aller au-devant de la technologie mondiale et devenir le pionnier.
C'est une
grande montée lyrique. C'est intéressant.
Il y avait 4 chercheurs, puis c'est un peu le principe aussi de justement présenter les recherches puis de les amener à débattre ensemble aussi.
Tout à fait. Ouais. Et puis, c'était diffusé en direct sur notre page Facebook. Donc, si vous voulez voir cette version-là, elle est disponible. Mais là, on est en train de la repeaufiner un peu pour ajuster les couleurs des caméras, le son un peu, pour faire un beau produit fini sur notre chaîne YouTube qui se nourrit amplement de toute cette connaissance fabuleuse.
Mm-hmm. C'est vraiment intéressant parce que d'un côté, Néo met en valeur les chercheurs, chercheuses au cycle supérieur à l'Université Laval, donc des étudiants et étudiantes. Et de l'autre côté, les grandes conférences, où ils mettent plus de l'avant les professeurs de l'Université Laval et même de l'extérieur de l'Université Laval, si je crois. Je pense qu'il y
en a... Oui, on essaie toujours de... Nous, notre mandat, c'était auparavant de créer cette réunion-là entre les différentes universités, puis des fois, on a des gens de la société civile aussi, qui ont une expertise différente. Là, l'université a opté pour la première pour mettre de l'avant ses chercheurs, mais on va essayer de travailler fort pour que cette interaction-là continue. La prochaine sera le 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril. ce sera sur le stress, je vous le dis un peu
En primeur,
oui, je vous dévoile un scoop ici aujourd'hui. Le dites à personne. Mais c'est ça. Donc, là, ça va être d'orienter. Évidemment, on ne veut pas mettre la responsabilité du stress sur la personne qui le subit, mais bien questionner nos modes de vie, les institutions. Ça va peut-être intéresser d'ailleurs Julie, parce que ça touche aussi à l'arrivée des changements dans l'entreprise aussi, des institutions d'enseignement aussi.
Ouais, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour...
Monde du travail aussi, qu'on parle.
Exact, tout à fait. Donc, identifier c'est quoi les sources de stress, puis voir est-ce qu'on peut chercher à les éliminer à la source plutôt que c'est de guérir les bobos tout le temps.
Oui, exactement. Puis on réalise aussi que c'est un problème quand même assez important. Justement, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je me souviens plus trop, il y a le rapport de la santé psychologique étudiante de l'UEC qui est sorti et qui avait des résultats quand même assez désastreux en comparaison à la moyenne de la santé mentale québécoise. Donc, c'est un sujet assez chaud, là, puis quand même vraiment important. Tant au plan individuel, institutionnel ou même gouvernemental. Là. Donc, je pense qu'on c'est un bon sujet, un bon choix de sujet qui a été pris. Là.
Changement climatique aussi, d'ailleurs, ça a occasionné des bons échanges. Là. Puis en plus, c'était en plein milieu de la campagne électorale. Fait que les gens étaient prédisposés à entendre parler de ça, Puis je pense que le point de vue constructif aussi qui a été abordé, qui a été adopté, a permis a permis de rendre ça vraiment hyper intéressant. Il y avait il parlait beaucoup de l'importance des gouvernements de proximité, mm-hmm. des gouvernements municipaux, puis dans le processus. Donc,
puis des gestes qu'on peut faire dans tous les jours aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Ouais, c'est ça. Ben, je pense que c'est ça que les gens aussi aiment avec la chaire publique. Là, comme une de nos conférences les plus populaires, c'était des outils pour apprendre. C'était vraiment justement un genre de coffre à outils, là, une conférence, un coffre à outils qui donnait des trucs pour la lecture rapide. Puis les différents... Je pense qu'il y avait tout
des trucs de mémoire, des trucs sur le sommeil aussi, comment améliorer le sommeil. Puis c'est ça, les mind maps, donc des cartes halieutiques pour se souvenir, évidemment. Là, donc, créer des liens entre les choses pour mieux apprendre. Oui, ça a été une conférence qui est très populaire et qui est encore très populaire sur le web, là, qui est vue très souvent. Mais parallèlement à ça aussi, ce qu'on est en train d'offrir tranquillement aux instituts, aux centres de recherche, à ceux et celles qui ont des recherches particulières, c'est des diffusions en direct, un peu comme ce qu'on fait en ce moment. Ouais. On est sur la page Facebook de la chaire publique. Ben, avec l'émission de radio, on pourrait faire des spéciaux une heure pour pousser un sujet avec un chercheur qui aurait envie peut-être de rencontrer un autre chercheur d'une autre université ou alors de créer un dialogue avec un étudiant sur un sujet X. Donc, c'est un format qu'on est en train d'offrir aussi. On peut la faire soit en studio directement à la Maison Marie-Sirois chez nous, ici à l'émission de radio. On pourrait faire une mini-conférence au Café Foilier. Donc, il y a différentes formules qui peuvent être utilisées. Mais l'objectif, c'est de la faire en direct sur notre page web pour créer l'interaction, que les gens en ligne puissent regarder et apporter leurs questions aux chercheurs. Donc, c'est une autre façon de diffuser la science, la vulgariser. C'est vraiment dans nos mandats fondamentaux. Là, tout est toujours gratuit chez nous. Là, on s'arrange pour que le savoir circule le plus possible de façon universelle.
Exact. C'est vraiment un défi tant pour les associations étudiantes que pour les universités d'un peu sortir de notre bulle. Puis des fois, c'est pas évident d'aller chercher les gens. Puis des fois, aussi de vulgariser une idée qui a l'air hyper complexe, c'est vraiment pas évident. Puis je pense que je peux vous féliciter, Tom et Serge, parce que vous faites vraiment un bon travail. Puis des beaux projets qui s'en viennent, des belles émissions de Néo.
Merci, mon cher.
Oui, je voulais juste ajouter que d'un point de vue, quand on fait les recherches, surtout aux études doctorales, finalement, on nous enseigne à comment faire des articles scientifiques, comment faire un projet de recherche, des demandes de subventions, mais on nous enseigne peut-être un peu moins comment faire une vulgarisation mm-hmm. comme ça. Donc, je me suis sentie très déstabilisée hein, devant la caméra, comment le dire, le redire avec différentes intonations. Et puis, j'aime beaucoup le coaching que j'ai eu. Puis,
mais qu'est-ce qui t'a intéressé au départ dans l'idée de ce projet-là?
Dans l'idée, c'est que... Ben, peut-être parce que je viens du milieu de travail, moi aussi. Hein, j'étais dans la fonction publique avant. Puis, tu sais, on vient d'en parler. Là, le milieu de travail est en transformation. Tout change. La société change. Tout va vite. Puis, en même temps, quand on est dans la prise de décision où on doit agir, on n'est pas toujours... On ne se sent pas toujours équipé. Puis, en même temps, on a des universités avec plein de chercheurs qui travaillent dans le petit bureau, à l'ombre, à maison, dans un café, puis qui produisent plein de connaissances. Fait que moi, je trouve qu'il y a toute une grande valeur à mettre ces connaissances-là au service des gens qui sont dans l'action, peu importe les milieux dans lesquels ils sont. Fait que moi, j'étais interpellée par ça, puis je me dis, comment est-ce que ce que je fais dans ma recherche que j'aime, comment est-ce que ça peut être utile?
Exact.
Puis ça peut pas être utile à tout le monde, c'est clair, mais il y a peut-être quelque part quelques personnes à qui ils vont écouter ça, ils vont dire « Ah, OK, l'expérimentation, est-ce que c'est ça? » Puis, bon, peu importe l'angle qu'ils vont regarder ça, moi, je pense que la recherche doit être utile. Pas utile dans le sens monétaire, mais utile dans le sens d'aider les êtres humains à prendre action.
Exact.
Alors, je trouve qu'il y a une mission, là, puis ça m'a donné l'occasion de pratiquer ça, hein, cette vulgarisation-là, puis c'est important, puis je trouve qu'ils avaient une belle mission.
On prend le temps de le faire. Ouais, hein? Pendant le tournage, on n'est pas bas là. Toi, tu as été quand même la cobaye, tu l'as refait. Tu es revenu deux fois ou trois fois, je pense.
Oui, mais la première fois, j'étais bien contente de le refaire parce que je m'aimais beaucoup.
Mais enfin, bref, pour ceux et celles que ça intéresse, ouais. Parce que là, on fait le tour des facultés, il va y avoir un calendrier qui va être produit. Donc, il suffit de contacter moi-même, poste 412066 à l'Université Laval ou sinon cher.public@allier.ulaval.ca. Et puis, sinon, directement sur le site web de l'Allier, sous l'onglet Néo, ça va être le plus simple. Ouais. Il y a mes coordonnées qui sont là. Pour savoir quand votre faculté va participer, c'est quoi le processus? Là, on fait un petit concours. Vous devez soumettre une petite vidéo de 2 minutes là, pour qu'on fasse un petit jury puis qu'on évalue. Puis voilà, on va sélectionner une personne par faculté donc pendant 2 ans, parce qu'il y a 16 facultés. Donc, dans notre calendrier de production, c'est à peu près une production par mois. Alors, d'ici 2 ans, là, vous allez voir votre faculté passer. Alors, si ça vous intéresse, juste vous informer, puis moi, je vous donnerai les détails. Ce sera aussi simple que cela.
Tout à fait. C'est malheureusement tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Oui. Je tiens à remercier énormément mes invités d'aujourd'hui, Marie-Ève, Serge, Tom et Julie. Vraiment un plaisir de vous recevoir.
Merci à toi, Jay.
Merci beaucoup.
Merci.
Fait plaisir. Donc, à la semaine prochaine, à Question de savoir, 11h30, même heure, à Chiz 94.3. Merci d'avoir été là et bonne journée.
Faire quelque chose. Le jugement, je m'en fous. Je préfère être là dans mon canapé, posé comme un pape, verre de limonade, green skunk et vêtements mou. On se retrouvera quand j'aurai l'envie. Je t'écouterai, oui, c'est promis. Là, je suis l'enfant méchant qui veut perdre son temps. Ils vont dire que je rappe le miel et les abeilles. Mais j'ai l'habitude, je me suis fait au venin depuis le temps. Les doutes, j'en suis revenu depuis longtemps. J'ai juste pris l'autre vibes pour la journée. Yeah. Laisse-moi kiffer, laisse-moi chiller. J'ai juste envie de rien, mais rien parfois c'est bien. Zoner dans le corridor. J'ai juste envie.